Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous, Affaires étrangères, Christine Ockrent est malheureusement souffrante, c'est donc Xavier Martinet au micro, avec nos invités bien sûr, pour évoquer aujourd'hui la Syrie, troisième semaine d'offensive et de bombardement sur Alep, et encore une fois l'hypothèse d'un cessez-le-feu qui sera discuté lors de négociations internationales. Elles vont commencer à Lausanne dans quelques minutes en Suisse, il y aura les États-Unis, la Russie, mais aussi la Turquie, le Qatar et l'Iran, mais que peut aujourd'hui la diplomatie face à une offensive qui paraît décisive sur le plan stratégique, et alors même que les pays en question ont tous une implication militaire différente. Les États-Unis et la France ont beau avoir employé à l'ONU le langage accusatoire, celui qui mène à la CPI, barbarie, crime de guerre, la résolution française pour un arrêt des bombardements et une zone d'exclusion aérienne a quand même échoué face au veto de la Russie, et le paysage diplomatique mondial se trouve aussi aujourd'hui plus tendu, mais pas forcément plus lisible. Les tensions entre Occidentaux et la Russie ont rarement été aussi aiguës, le régime syrien semble plus que jamais dépendant de ses soutiens, et les acteurs internationaux toujours aussi impuissants à résoudre la crise, du moins à l'apaiser. Bref, on a l'impression que ces dernières semaines, en pleine Assemblée générale de l'ONU, n'ont servi qu'à gagner du temps. Au contraire, les frappes aujourd'hui sur Alep s'intensifient. Alors l'enjeu syrien dépasse aujourd'hui largement Alep, mais Alep en effet cristallise un certain nombre de tensions et d'intentions. Bref, il sert de révélateur et on va d'abord décrire ce paysage diplomatique. Pour en parler aujourd'hui, Nicolas Tenser, merci d'être venu.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé à l'International Public Affairs de Sciences Po. Et François Hesbourg, merci également.
Bonjour.
Bonjour, président de l'International Institute for Strategic Studies, l'IIS, Centre politique de sécurité de Genève, le GCSP, et bien sûr conseiller à la FRS. Alors peut-être on pourrait commencer avec vous, Nicolas Tenser. Je parlais de cette initiative française, d'une résolution à l'ONU pour obtenir un cessez-le-feu à Alep, un cessez-le-feu et une zone d'exclusion aérienne. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne initiative? Est-ce qu'elle avait des chances de passer?
Non, la réponse est... Et non, en tout cas, sur les chances de passer. C'est-à-dire qu'on savait de toute manière que la Russie allait opposer son veto. Et c'était d'une certaine manière pour montrer directement à la face du monde la responsabilité première de la Russie dans ce qui se passait aujourd'hui. Et directement, on y reviendra, c'est-à-dire pas uniquement en soutien d'Assad, mais directement en commettant des crimes de guerre, que la France a voulu faire passer cette résolution. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant de voir, c'est que c'est la cinquième résolution sur la Syrie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les quatre premières ont été rejetées par un veto aussi bien russe que chinois. Et d'ailleurs, cette dernière n'a pas fait l'objet, c'est quand même très intéressant, d'un veto chinois. Ce qui montre, on pourra là aussi l'évoquer, probablement un changement un tout petit peu radical, je dirais, sur la scène internationale. Alors, toujours est-il que cette initiative, il fallait encore une fois, je pense, la faire. C'était une résolution de la dernière chance, même si elle n'avait pas de chance. Et elle a montré clairement que la Russie s'était mise complètement en retrait, en dehors des règles fondamentales de la communauté internationale, non seulement violant la loi internationale, le droit international, en commettant des crimes de guerre et vraisemblablement aussi des crimes contre l'humanité, mais également en montrant par là, confirmant d'une certaine manière ce que certains d'entre nous disions depuis déjà beaucoup d'années, sa volonté de saper l'ordre international et les institutions sur lesquelles il repose.
Et de ce point de vue-là, François Hesbourg, je repose ma question, mais est-ce que c'était justement une résolution utile, puisqu'on a vu qu'elle a servi de révélateur, dit François Tenser, mais est-ce que c'était si utile que ça?
Non, elle n'était pas utile, elle était nécessaire. Ce n'est pas la même chose, elle était nécessaire pour se compter, effectivement, pour bien marquer les responsabilités. Et quand je dis pas utile, et ben d'abord parce qu'effectivement elle n'est pas passée, donc elle n'a pas d'utilité au sens strict du terme, et pas d'utilité non plus en ce qui concerne le positionnement de la Russie. La Russie retire de toute cette affaire une image de capacité d'initiative et de capacité d'agir de façon décisive et efficace, et qui, je pense, du point de vue russe, vaut bien et quelques problèmes de décompte de voix à New York. Parce qu'effectivement, ceux qui étaient pour la résolution française étaient beaucoup plus nombreux que les quatre qui soutenaient la résolution russe, Russie comprise. Mais quand vous voyez la façon dont résonne l'activité, les actions et les exactions des Russes en Syrie, dans le monde, mais aussi dans nos propres pays, regardez dans la classe politique française. il n'y a pas que Mme Le Pen qui trouve ça tout à fait remarquable. Il y a quand même la droite classique et qui a l'air, dans une grande partie de ses composantes, et de trouver l'action de M. Poutine comme étant plutôt la voie de la sagesse. Mmh. Et donc il faut faire très très attention et toujours dans ces affaires-là, se mettre à la place de l'autre. Et vu du point de vue russe, la façon dont nous pensons mettre la Russie sur le banc des accusés, à un certain niveau, les arrange, parce que ça renforce leur image de capacité de prise de décision et d'action efficace, car hélas, et Alep est en cours de grosnification. Finalement, du point de vue russe, ça s'est très bien passé. Et alors la Syrie, c'est 10 fois plus de population, 10 fois plus de territoire, ou 20 fois plus de territoire que la Tchétchénie. Mais les mêmes recettes sont utilisées. Et pour l'instant, ça semble plutôt aller dans le sens des Russes.
Mmh. C'est votre avis aussi, Nicolas Tenzer?
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire François Hesbourg. C'est-à-dire que je crois que ce que montre la Russie là, et ce qu'elle veut tester encore plus dans cette période très délicate de retrait, d'abstention américaine avec le président Obama, visible depuis 2013, depuis qu'il a refusé de suivre ce qui était la proposition française, et depuis qu'il a parlé de lignes rouges qui n'ont jamais été appliquées, et encore plus dans cette période donc électorale, préélectorale, disons que la Russie profite de ce vide pour faire ce qu'elle avait vraiment envie de faire, et je pense que d'un point de vue là, la Syrie n'est qu'une pièce dans ce jeu, c'est montrer que c'est elle l'hyperpuissance. On parlait, vous savez, dans le temps, c'était une formule d'Hubert Védrine, l'hyperpuissance américaine. Elle veut dire finalement, mais l'hyperpuissance, celle qui donne le là, qui donne le ton, qui décide quelles sont les règles, quelles sont les actions, mais c'est moi, Vladimir Poutine, président de la Russie.
Donc quand vous dites, ainsi que François Hesbourg, c'était pas utile, mais c'était nécessaire, il faut comprendre que l'objectif était d'abord de se démarquer de cette Russie-là.
Je pense qu'il fallait bien sûr se démarquer. Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire que je pense qu'il faut de toute manière dire que les démocraties, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc., ou les autres, toutes les autres démocraties dans le monde, eh bien, elles sont attachées quand même non seulement à la résolution pacifique des différends, mais quand même aux règles fondamentales du droit international, que ce soit le droit humanitaire, etc. Et je crois qu'à un certain moment, à partir du moment où la Russie conduit directement et en appui du régime de Bachar el-Assad, avec l'Iran aussi, faut jamais oublier l'Iran dans cet échiquier-là, une guerre d'extermination, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il s'agit de tuer les hommes, les femmes, les enfants, les civils, les uns après les autres, le plus grand nombre possible, et c'est pour ça effectivement que la comparaison avec Grozny est parfaitement pertinente, et bien à partir de ce moment-là, il faut le dire, il faut le déclarer. Mais effectivement, la Russie, elle sort gagnante, parce que vous avez, François Hesbourg l'a rappelé, vous avez des tas de gens qui disent, mais finalement, c'est l'homme fort, elle impose son agenda, on a des États-Unis impuissants, on a une Europe divisée, puis de toute manière qui n'a pas les moyens militaires de remplacer les États-Unis pour imposer une zone de non-survol en Syrie, de toute manière. Bon, et qui en a encore à négocier. Je crois que de ce point de vue-là, la rencontre qui commence là à Lausanne, effectivement, est un très mauvais signal, parce qu'on continue à dire, ah oui, la Russie, ce sont des criminels de guerre, et puis on continue à les voir et à négocier avec eux. Qu'il y a vraiment une illusion de cette négociation avec la Russie, aujourd'hui, qu'il faut quand même dire et dont il faut tirer les conséquences.
C'est une chose, et de fait, de toute façon, c'est vrai qu'également, la Russie s'est retrouvée un peu isolée au sein de ce Conseil de sécurité. Des 15, en tout cas, elle n'a pas été soutenue par énormément de monde cette fois. Vous avez effectivement souligné l'attitude de la Chine. Peut-être on va demander son avis à Constantin von Egert. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup. Merci Constantin von Egert d'être avec nous au téléphone. Vous êtes donc à Moscou, observateur politique sur la chaîne Deutsche, chaîne indépendante, peut-être la seule aujourd'hui en Russie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire de veto russe, à l'ONU? La France avait sa proposition, mais la Russie avait également formulé sa propre proposition.
Ah oui, le président Poutine a dit que les Français ont tâché de piéger la Russie avec cette proposition de résolution à l'ONU, c'est-à-dire que quand la France dit qu'elle veut sauver les vies des Syriens, Poutine voit n'est que une espèce de d'attentat sur l'honneur militaire de la Russie et sur les positions diplomatiques de la Russie. Bien sûr, pour Poutine, c'était absolument nécessaire d'exercer son veto sur cette résolution condamnant, on peut dire, les atrocités du régime syrien. Mais pour lui, c'est aussi important de continuer ce qu'il fait en Syrie, parce que pour lui, c'est plutôt con, vous avez dit, je crois que c'était François qui l'a dit. Ça, c'est la continuation de cet enjeu avec les Américains. En tant qu'on a Obama et Kerry à Washington maintenant, au Kremlin, on pense qu'on peut faire tout. On peut peut-être même gagner des positions en Syrie, même militairement. Et puis, quand soit Clinton, soit Trump arrivent à la Maison-Blanche, on peut négocier avec eux, on peut dire, de la position de force, de la position de pouvoir en Syrie, en Moyen-Orient, pour peut-être faire un grand deal avec eux. Sur la Syrie et sur l'Ukraine. On ne peut pas oublier que pour Poutine, l'Ukraine demeure la chose la plus importante, ou plutôt l'enjeu plus important que la Syrie. La Syrie, c'est une méthode de négocier avec pouvoir, avec la force, avec les États-Unis.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Peut-être la première remarque, et je demanderai à François Hesbourg, ce que vous dites, Konstantin von Egert, c'est que, d'une certaine manière, la Russie joue un peu sur la situation aux États-Unis. Pour l'instant, c'est bloqué tant que l'élection n'est pas passée. Vous êtes d'accord, François Hesbourg?
C'est évident. Et la Russie a tout avantage à engranger un maximum et davantage dans le conflit syrien, et la chute de la partie rebelle d'Alep, c'est évidemment un enjeu tout à fait majeur. Donc il faut pousser les feux un maximum d'ici le 20 janvier, date d'investiture du prochain président des États-Unis. Et par ailleurs, la Russie, et c'est Nicolas Tenzer, je crois qu'il a rappelé il y a quelques instants, et la Russie a pris la mesure de Monsieur Obama. Et en août 2013, lors de l'affaire des lignes rouges, François Hollande le rappelle à sa façon dans son je ne sais pas comment on appelle ça, son livre de confidence avec les journalistes français là. Et Obama est apparu à partir de ce moment-là comme quelqu'un de non crédible. Et les Russes ont pris sa mesure. Et quand il a commencé à y avoir quelques frissonnements aux États-Unis il y a quelques jours sur le thème de la zone d'exclusion aérienne, les Russes ont tout de suite grimpé au cocotier en disant s'il y a quiconque qui gêne les avions russes en Syrie, la Russie fera le nécessaire. Sous-entendu, nous on ne bluffe pas. Et nous, on sait que vous vous bluffez. Et donc, à bon entendeur, salut. Donc, jusqu'au 20 janvier, ce sera comme ça. Et le niveau de violence, je ne sais pas si ça croîtra encore, mais du point de vue russe, ce serait pas mal et que ce qui reste de zone libre à Alep tombe entre les mains des forces de Bachar.
Et effectivement, vous l'avez dit, il y a eu des déclarations relativement inquiétantes, ou en tout cas très fermes, de la part de la Russie, au cas où elle serait attaquée, qu'elle n'hésiterait pas à utiliser ses armes.
Oh non, pas attaquée. Au cas où des avions américains ou étrangers oseraient tenter d'empêcher des avions russes d'aller bombarder Alep. Il ne s'agit pas d'attaquer des avions, il s'agit de faire en sorte qu'ils ne puissent pas opérer. Et la Russie, évidemment, utiliserait tous les moyens nécessaires. Et la Russie, malheureusement, les gens croient ce que disent les Russes, ils ne croient pas ce que disent les Américains.
Et Konstantin von Egert, comment est-ce que c'est vu de Moscou, justement, ce rapport avec les États-Unis? Est-ce que, selon vous, Vladimir Poutine compte autant que François Hesbourg le dit sur la faiblesse de Barack Obama?
Absolument. Je suis complètement d'accord avec M. Hesbourg parce que c'était même peut-être avant l'affaire des lignes rouges. Qu'on a pris la mesure de M. Obama, même quand il a dit en 2011 en Libye qu'on va « lead from behind ». Je crois que cette à ce moment-là que M. Poutine a réalisé ce qu'il peut faire. Je crois que c'est pourquoi il était complètement surpris par les sanctions américaines après l'affaire ukrainienne, parce que il ne pensait pas que Obama peut faire quelque chose comme ça. Mais je voudrais ajouter quelque chose à cette explication sur les actions russes en Syrie. Ce que le Kremlin dit, effectivement, est que nous sommes en Syrie par l'invitation de son gouvernement légitime. Et tous les restes ne sont pas là à l'invitation du président de la Syrie. C'est-à-dire que nous sommes la seule force, le seul, on peut dire, joueur légitime en Syrie qui peut ouvrir le feu, parce que nous sommes invités et les restes, non. Et je crois que cette explication quasi-juridique, c'est très importante et présentée tout le temps. Quand on regarde sur la télé ici les briefings des diplomates et des militaires russes sur la situation syrienne. Et comme vous avez dit, la manière de quelle cette situation est présentée à la public russe, avec les victimes d'Alep, on peut dire même, c'est que c'est tout la faute des Américains. Et tous les victimes sont les victimes des terroristes, je ne sais pas quoi, d'Al-Qaïda. Et c'est les États-Unis qui ont mené la Syrie à cette catastrophe. C'est... Bien sûr, pour les Russes, 99% des Russes, la Syrie, c'est très loin. On ne sait pas aucune chose de la Syrie, et il le croit. Moi, j'ai passé pas mal de temps en Syrie, et je comprends que c'est très complexe. Je crois que la Syrie n'existera plus, mais certainement pour les Russes, c'est un peu de cette tragédie d'un côté, d'un autre côté. C'est comme on peut dire que c'est comme une simulation de l'ordinateur avec les forces russes, avec les avions russes qui frappent. L'engin Russie frappe l'ennemi invisible. C'est très important qu'il n'a pas des victimes des militaires russes. Ça semble comme une guerre sans victimes.
Et de fait,
c'est très important pour les Russes, parce que on a bien sûr les mémoires d'Afghanistan et de la Tchétchénie. Et c'est pourquoi je ne crois pas que Poutine va utiliser les forces régulières russes. En Syrie, bien sûr, il y a des choses comme ça, mais les forces régulières, je crois que c'est la vraie ligne rouge pour M. Poutine.
Et en tout cas, oui, vous l'avez dit, il y a eu 20 soldats russes tués officiellement pour 5000 engagés, je crois. Je voudrais faire intervenir Nicolas Tenzer juste sur une chose que vous avez dite. Finalement, Nicolas Tenzer, cette légitimité à intervenir que met en avant sans cesse la Russie en Syrie, d'une part, elle est fondée sur des intérêts réels, des bases militaires, une alliance historique, mais en même temps, on a l'impression que c'est un peu un des points indépassables diplomatiquement. Et c'est cette légitimité-là que ne peuvent pas avoir les Occidentaux.
Mais je crois qu'il y a tout un discours russe qui repose sur deux choses. La première chose, c'est évidemment le refus de considérer que la légitimité, ce n'est pas nécessairement celle du gouvernement légalement, avec beaucoup de guillemets quand même, élu, parce qu'on connaît les conditions d'élection de Bachar el-Assad ou avant de son père. Ce qui est important, c'est effectivement cette légitimité-là pour les Russes, et pas du tout celle des droits de l'homme, du droit humanitaire, du respect de la démocratie, etc. C'est d'ailleurs le même argument, il faut le rappeler, que les Russes ont utilisé en Ukraine à propos de la défense du gouvernement Yanukovych, contre les révolutionnaires de Maïdan.
Donc on a une méthode bien
rodée. Voilà, et donc finalement, tout ceci participe donc d'une idéologie qui est opposée aux droits de l'homme, qui repose sur des valeurs très traditionnelles, une indifférence aux droits humanitaires, et bien sûr beaucoup d'autres choses derrière, une volonté nationaliste de défense des valeurs russes relativistes. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ça correspond à toute la vision des certains idéologues du Kremlin, notamment d'extrême droite, comme Alexandre Dugin, par exemple, je crois que ça c'est très clair, mais également on le voit de manière entre guillemets plus douce dans un certain nombre de cénacles. L'idée qui est évoquée, notamment par l'ancien ministre, l'ancien patron des chemins de fer russes, vous savez, le machin, le forum de Rhodes, c'est sur l'égide du dialogue de civilisation. Ce prétendu dialogue de civilisation revient à dire, finalement, il y a différents systèmes de valeurs, et pourquoi est-ce que l'Occident nous imposerait son propre système ?
Et une manière de poser
Et je crois que derrière, il y a quand même toute cette idéologie-là que reprennent, entre parenthèses, une série de pro-russes, ou plus je devrais dire pro-Poutine, parce qu'il n'y avait pas d'attaquer la Russie en tant que telle, mais pro-Poutine en France, qui ont le culte de l'homme fort, une indifférence aux droits de l'homme, une indifférence aux valeurs fondamentales des libertés et des lumières.
Et n'empêche précisément que François Hesbourg, cette année, je pense qu'il faudrait le rappeler, elle a été riche en tentatives diplomatiques, rebondissements diplomatiques, et puis surtout que la Russie, au début de l'année, c'était un des pays qui s'est emparé du thème des droits de l'homme, avec cette question des corridors humanitaires. C'était l'époque de la famine à Madaya, on pensait qu'il allait y avoir une famine à Alep également. Il y a un embryon de plan qui a commencé à se mettre en place, qui n'a pas abouti. Qu'est-ce que vous en pensez de cette longue évolution ? Finalement, c'était pas si mal parti, on aurait pu croire, au début de l'année.
Les Russes avaient, je crois, au départ, deux objectifs, et qui restent leurs objectifs. Le premier, c'était de sauver le soldat Bachar, et le faire dans des conditions qui posent le moins de problèmes diplomatiques que possible. Donc, une action militaire forte et dans le cas d'espèce décisive, puisqu'effectivement Bachar a été sauvé l'année dernière par l'intervention russe. Mais comme la Russie a quand même pas mal, est un peu comme un jongleur, il y a beaucoup de balles qui sont en l'air en même temps, et il fallait quand même éviter de prêter le flanc à trop de difficultés à la fois. D'où, je crois, cette relative, entre guillemets, modération sur les couloirs humanitaires, surtout si les couloirs humanitaires permettaient par ailleurs de vider les villes ainsi sauvées, entre guillemets, et de permettre le retour, du coup, des forces pro-Bachar. Mais maintenant, on est entré depuis quelques mois dans une autre séquence, c'est celle des élections présidentielles américaines, où il s'agit d'engranger le maximum de positions fortes avant l'investiture du prochain président, quelle que soit son identité. Juste un mot quand même sur cette affaire de l'égalité internationale. Les Occidentaux sont dans une situation juridiquement plus délicate que la Russie. Et il ne faut pas prétendre le contraire. La Russie peut effectivement dire, mais nous avons été invités. Et de la même façon que lorsque l'État islamique a commencé son expédition sur Mossoul et ainsi de suite en Irak en 2014, le gouvernement irakien nous a invités à intervenir en Irak. À l'époque, la France avait choisi de ne pas intervenir contre l'État islamique en Syrie parce que nous n'avions pas été invités. On considérait en France que l'absence d'une résolution du Conseil de sécurité posait problème. Les Américains ne le prenaient pas ainsi, les Américains étaient intervenus tout de suite en Syrie, et par ailleurs, bien sûr, les Russes jouent sur le fait que, quelque part, il y a une mauvaise conscience occidentale sur la manière dont nous avons interprété la résolution qui nous autorisait à intervenir en Libye.
Également, où les Russes se sont sentis floués.
Eux se sont sentis clairement floués, mais il n'y a pas que leur sentiment, il y a aussi le nôtre. C'est-à-dire, la résolution, on l'a obtenue de haute lutte, et elle justifiait pleinement l'intervention humanitaire, sauver Benghazi, et ainsi de suite. Elle ne disait pas, et d'ailleurs, les gars, vous pouvez y aller, vous pouvez renverser Kadhafi. Donc, on est dans une situation sur laquelle la propagande et la guerre de l'information russe, et je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Tanzer, les Russes, bien sûr, jouent là-dessus, leur projet n'est pas le nôtre, c'est une puissance qui est hostile. Mais il faut bien dire que sur ce terrain-là, le terrain juridique, on n'est pas très bien, et la propagande russe peut se déployer avec une assez grande facilité.
D'où la prise de position de force de la Russie, position de force sur le terrain également, ça c'est clair. Konstantin von Egert, c'est vrai qu'il y a une affirmation à travers cet épisode syrien de la puissance russe, c'est une évidence, on le répète souvent, mais au fond on a du mal à comprendre un peu aujourd'hui quand même que veut ou jusqu'où Vladimir Poutine pourrait aller, parce que c'est vrai qu'il soutient Bachar el-Assad presque à bout de bras alors qu'il avait été en difficulté, il est son principal soutien à Alep, mais est-ce qu'en un sens il n'est pas en train de brûler un certain capital diplomatique aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez les choses, vous?
Bien sûr, beaucoup de du capital diplomatique politique est dans cet enjeu, parce que quand on a commencé cette intervention, on est intervenu l'année dernière. Je crois que au Kremlin, on a pensé que ça va pas durer très longtemps. Ça va durer peut-être 6 mois, 8 mois pour créer d'une autre situation sur Terre, on peut dire, pour négocier avec le président des États-Unis qui viendra après M. Obama. Maintenant, bien sûr, M. Poutine et M. Assad sont étroitement liés, et même on peut dire d'une quelque manière, M. Poutine est devenu l'otage de M. Assad, parce qu'il ne peut, c'est un peu comme on a cette phrase en russe, c'est comme une vieille valise, on ne peut pas la laisser, il faut qu'on continue avec tout le contenu parce que on a la capitale là-bas. Et je crois que M. Assad est devenu cette valise qu'il faut porter avec M. Poutine et forcer de porter avec lui, parce que s'il quitte la Syrie, il peut le faire demain. Mais ce qui avait arrivé à Assad, parce que après ça, si Assad tombe, c'est possible, bien sûr, on va dire que la Russie n'a pas de respect pour ses propres alliés.
Et justement, vous dites il peut quitter la Russie demain, mais le peut-il vraiment, puisqu'il y a aussi les intérêts russes propres, de toute façon, en dehors même du soutien à Bachar el-Assad.
Oui, il y a des intérêts militaires maintenant, quand même, si on les compare avec l'intérêt russe en Ukraine et l'intérêt russe dans les négociations, dans un grand deal avec les États-Unis, c'est pas un grand intérêt. On n'utilise pas le pétrole moyen-oriental, on n'a pas des communautés russes intégrées. Ah, mais c'est pour Poutine, je crois que la Syrie, c'est plus la méthode que le but. Et ce que je veux dire, c'est que s'il quitte, il va perdre la face, comme on dit en Chine, et il va perdre cette image du quelqu'un qui est le seul dans le monde qui peut résister le regime change. Et pour lui, c'est très important de montrer que la politique du regime change qu'on imagine en Kremlin, et qui existe d'une quelque manière, on peut dire, la politique du regime change arrête en Russie, et avec la Russie. Et pour lui, Bachar Assad, il n'est pas important tel quel, mais plutôt comme ce symbole du regime change que les États-Unis vont faire en Syrie. Et c'est pourquoi, pour Poutine, c'est un problème très important. Et je crois que maintenant, on est devenu, on peut dire le Kremlin est devenu l'otage de la situation syrienne et l'otage de tous les autres joueurs dans la région. Pour Poutine, c'est plutôt une jeu avec les États-Unis. Alors, pour le reste, comme la Turquie ou l'Iran, c'est peut-être la question de l'avis d'État.
Justement, je vous arrête juste une minute pour faire intervenir François Hesbourg. François Hesbourg, donc, on comprend à ce que nous dit Constantine von Egert que pour la Russie, ce qui compte, c'est d'abord le soutien à Bachar el-Assad, que ce soutien crée une dépendance. Mais donc, il ne faudrait pas croire que la Russie a un jeu plus vaste que la Syrie au Moyen-Orient. On l'a beaucoup dit, on a dit, elle défend le Caucase, ses marches, etc.
Attention, d'abord, et ce qui est central dans cette affaire, c'est la relation avec les États-Unis, ce qui vient d'être dit. Or, dans le contentieux entre la Russie et les États-Unis, la Syrie n'est qu'un élément du puzzle et pas le plus important. L'affaire des cyberattaques est quelque chose de beaucoup plus important, perçu comme tel par les États-Unis. Et la façon dont la Russie a voulu jouer la carte Trump va peser aussi lourdement quand Mme Clinton arrivera vraisemblablement au pouvoir le 20 janvier prochain. Donc, la Syrie n'est pas paradoxalement l'élément central de ce contentieux. Deuxième chose, la Syrie, ce n'est pas simplement la Syrie. La Syrie, c'est l'intervention de l'Iran. Bachar est soutenu par qui ? Il est soutenu par la Russie, il est soutenu par l'Iran, il est soutenu par les Hezbollah. Et on est là dans le grand jeu moyen-oriental actuel, chiite contre sunnite, pour simplifier à l'excès. Et donc, du point de vue de la Russie, ce n'est pas simplement un problème d'être prisonnier quelque part de Bachar. Et là, je suis tout à fait d'accord. Comme toujours, avec les interventions des grandes puissances dans des zones qui ne sont pas les leurs, et la grande puissance finit par être manipulée par l'État en faveur duquel elles interviennent. C'est un grand classique, hein. C'est l'Afghanistan, c'est le Vietnam, c'est tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, pour la Russie, le coût de cette dépendance est faible, hein, en termes financiers et en termes humains. Ce n'est pas beaucoup plus que l'intervention franco-britannique en Libye. Mais pour la Russie, il y a un enjeu qui est beaucoup plus large, l'influence en Irak, la relation avec l'Iran, et c'est pas rien, hein. Et bien sûr la relation avec la Turquie. Et donc la Russie est arrivée, en intervenant ouvertement auprès de Bachar, à se mettre au centre du jeu moyen-oriental. Est-ce que ça lui portera bonheur dans 10 ou 20 ans ? J'en doute. Hein, le Moyen-Orient, c'est un endroit où l'on crée des problèmes, c'est pas un endroit où on les résout. Hein. Mais pour l'instant, et peut-être pour quelques années, la Russie s'en trouve, hélas, fort bien. Elle a acquis une stature nouvelle. Ce n'est plus simplement une puissance régionale. Elle est une nouvelle Union soviétique sur la place mondiale. Et tout ça, au prix de 4500 militaires qui soutiennent les opérations aériennes et quelques forces spéciales, avec un prix qui est probablement de l'ordre de 3 millions d'euros par jour. C'est vraiment pas cher. Hein.
Donc 1,2 milliard à peu près depuis le début de l'intervention.
Oui. Ça revient. Même pour un pays comme la Russie sous sanction avec une économie qui ne va pas très bien, c'est tout à fait supportable.
Ça revient à ça. Justement, je voudrais terminer avec ça, Constantine von Egert, et je vous laisse repartir. Mais si on essaye de faire une évaluation globale, c'est toujours un peu hasardeux, mais de cette puissance russe aujourd'hui à l'issue d'un an d'intervention, voire un peu plus, on voit effectivement que diplomatiquement, elle se repositionne pas si mal finalement. Elle renoue avec la Turquie. Il y a Vladimir Poutine en Inde aujourd'hui pour signer des contrats également. Mais il y a globalement deux points de vue sur la Russie. Celui qui dit qu'il s'agit d'une puissance, certes, mais puissance faible. Ça, c'est Marie Mindras qui dit ça. Et un autre point de vue qui s'appuie plus sur effectivement le conflit qui commence à s'ouvrir avec les États-Unis, où on pense que la Russie développe une stratégie payante aujourd'hui pour déstabiliser des puissances occidentales. Elle est un facteur de déstabilisation réelle en Occident ou une puissance faible ? Comment vous voyez les choses, vous ? Constantine von Egert.
Ah oui. Ah, je m'en compris. Je pensais que vous avez dit au revoir, moi. Pardon.
Je vous en prie.
Répétez la question.
Je vous en prie. Je disais sur deux manières de voir la Russie, ou bien comme une puissance, oui, mais puissance faible toujours pour un certain nombre de raisons, ou bien comme une puissance qui parvient à ses fins aujourd'hui puisque elle arrive à déstabiliser encore plus des pays occidentaux déjà déstabilisés.
Je crois que la Russie est une puissance qui joue les cartes faibles d'une manière très efficace, on peut dire. Bien sûr, c'est un pays pas comme l'Union soviétique, avec l'économie comparable à l'économie de l'État de New York, aux États-Unis, et avec des problèmes financiers très grands. Je crois que pour M. Poutine, éventuellement, et même maintenant, le problème de budget, le problème d'argent devient très important. Et je crois que ça peut pas influencer l'opération syrienne. Bien sûr, pour la Russie, en ce qui concerne l'Occident, la chose la plus importante pour le Kremlin, c'est d'introduire le chaos dans les systèmes politiques occidentaux, soit avec M. Trump, soit avec Mme Le Pen, soit avec, je sais pas, l'extrême droit ou l'extrême gauche en Europe, pour changer des règles et pour arriver à ce que M. Poutine a décrit il y a une année aux aux Nations Unies. C'est
qui était
une espèce de Yalta 2, un grand deal pour laisser l'espace post-soviétique et la Russie entre les mains du Kremlin pour que l'Occident n'intervienne pas dans les affaires post-soviétiques et les affaires russes et reste ou laisse le régime russe au Kremlin pour l'éternité. C'est le but central, on peut dire, de la politique étrangère russe. C'est pas la grande puissance et toutes ces la rhétorique, tous ces mots sur l'empire et l'influence mondiale, c'est important, mais la chose la plus importante, c'est de rester au pouvoir. Et c'est pour ça que la politique intérieure et la politique extérieure syrienne, ukrainienne, etc., sert.
Eh bien, merci beaucoup. Merci, Constantin Feneger, d'avoir été avec nous au téléphone. Peut-être, Nicolas Tenzer, on revient en studio. Un commentaire, ce que nous disait Constantin Feneger sur cette puissance de la Russie, en fait, puissance qu'il faudrait comprendre comme, encore une fois, un moyen pour Vladimir Poutine de se maintenir. La Russie s'est réellement replacée au centre d'un jeu, désormais.
Oui, je crois qu'il y a, en fait, que les différentes théories ne sont pas si opposées qu'on veut bien le dire. Je pense que sur le plan économique, c'est une chose que j'avais constaté, j'avais m'écrit il y a une dizaine d'années, d'autres aussi d'ailleurs, c'est vrai que c'est une puissance sur le déclin pour une série de raisons qui tiennent non seulement à son ultra-dépendance par rapport aux matières premières, à l'absence de réformes économiques, aux problèmes démographiques que l'on sait, etc. Bon, il y a plein de raisons pour cela et je crois que effectivement à 25 ans, 30 ans, 40 ans, je ne peux pas dire exactement, le destin de la Russie comme grande puissance est d'une certaine manière fixé, scellé. Ce sera une puissance sur le déclin et ce ne sera plus une grande puissance pour des tas de raisons. En même temps, ces convulsions peuvent apporter évidemment des chocs tout à fait importants. Et là, je crois que ce que vient de dire Constantine est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'il y a une volonté du pouvoir de perturber le jeu international parce que c'est un moyen évidemment pour Poutine Poutine et son entourage, de rester au pouvoir, de continuer à capter une bonne partie de la richesse de ce malheureux pays au prix de l'appauvrissement évidemment d'une grande partie de la population. Je crois que la pauvreté en Russie, pas seulement en raison des sanctions et de la baisse du cours du gaz et du pétrole, a augmenté de manière considérable ces dernières années. Et je crois qu'il y a cette volonté-là et d'éviter donc tout ce qui pourrait ressembler à un changement de régime. Ça a été dit, toutes les révolutions de couleur, que ce soit en Géorgie, que ce soit en Ukraine, etc., et toutes les suites, c'est une sorte de hantise pour Poutine. Alors je crois que maintenant, il faut lire, et c'est peut-être le dernier remarque que je voudrais faire rapidement là-dessus, il faut lire aussi la stratégie de Poutine en Syrie et sa volonté de briser l'ordre mondial par rapport à la question ukrainienne. La question ukrainienne est quand même extrêmement la plus préoccupante aujourd'hui. C'est, il faut le rappeler, une guerre au centre de l'Europe, à moins de 3 heures de Paris, qui a déjà fait plus de 10 000 morts, 1,6 million de déplacés, et qui va durer. Je veux dire, les accords de Minsk, qui ne seront jamais appliqués, je crois qu'il faut être clair là-dessus, ils ne peuvent pas l'être pour des tas de raisons. La Russie ne le veut pas et les viole de manière offensive. Les accords de Minsk ont eu un seul avantage, c'est pour ça que je pense qu'il fallait les faire, c'est de diminuer l'intensité des combats. C'est tout. Mais derrière, il y a la volonté claire de Poutine de dire mais on ne veut pas, on ne veut aucune adhésion des pays voisins, que ce soit la Géorgie, l'Ukraine ou d'autres, ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne. On veut garder un facteur de déstabilisation en Europe et si possible, l'étendre encore plus profond au sein des pays européens.
Et l'Ukraine, il devrait peut-être en être question la semaine prochaine lors d'une réunion qu'on appelle au format Normandie. On verra ça. Je voudrais juste qu'on revienne sur la Syrie. Donc la Russie, évidemment, soutient Bachar el-Assad. Vous avez évoqué, François Hesbourg, l'Iran, évidemment, deuxième soutien de Bachar el-Assad. Il va en être question dans la chronique d'Éric Scholl, le rédacteur en chef de Courrier International, notre partenaire. Une chronique qui commence en fait par l'évocation d'un journaliste et analyste syrien qui est plutôt pessimiste, très pessimiste sur l'issue politique du conflit.
Oui, Bilal Abdulkarem est un journaliste new-yorkais qui couvre la guerre en Syrie depuis 2012 et il suit en particulier les rebelles qui défient le régime de Bachar el-Assad. Alors selon lui, le conflit syrien ne peut plus être réglé par des négociations entre des puissances qui n'ont d'ailleurs pas l'intention d'en mener. Bilal Abdulkarem l'écrit dans cette tribune, publiée sur le site Middle East Eye, « Il n'y a pas de solution politique au conflit syrien, la seule solution envisageable est militaire ». Comment cet observateur averti de la situation syrienne en est-il arrivé à cette conclusion? Eh bien justement, c'est en constatant l'inaction de l'Occident. Dans les faits, écrit-il, Bachar el-Assad a pu tuer 500 000 de personnes en direct à la télévision. Il a régulièrement utilisé des armes chimiques, pris pour cible des hôpitaux, laissé mourir des prisonniers de faim et bombardé des habitations civiles. Tous ces agissements ont été filmés. Le monde indigné a vu ces horribles images défiler devant ses yeux. Mais, poursuit Bilal Abdulkarem, l'indignation et l'action sont deux choses distinctes et rien de concret n'a été fait pour stopper le dictateur. Cette passivité, le journaliste l'attribue au manque d'intérêt de l'Occident pour la Syrie, qui n'est ni l'Arabie Saoudite, ni le Qatar, ou ni un autre pays du Golfe, des pays pour lesquels la communauté mondiale irait faire son devoir, écrit-il. Car c'est vrai, ces pays du Golfe regorgent de pétrole et de gaz naturel. Mais la Syrie, elle, en a très peu, et si elle présente un intérêt, c'est surtout pour la Russie, avec sa base militaire à Tartous. Si Moscou venait à la perdre, ce serait catastrophique pour le gouvernement de Poutine, assure Bilal Abdulkarem. La conclusion qu'il en tire, et je le cite, c'est qu'il n'y a pas de volonté internationale de faire preuve de la même agressivité que la Russie, et que le monde le sait parfaitement. Les puissances occidentales souhaiteraient maintenant maintenir le statu quo et se limiter à un changement de façade à la tête de l'État syrien. Bilal Abdulkarem en est convaincu. Il n'y aurait donc qu'une alternative, et je le cite, « soit l'Occident reconnaît véritablement le droit des Syriens à l'autodétermination, soit les combats continueront à faire rage dans cette région du monde. » C'est en tout cas c'est ce qu'il prédit. Et on le voit, les États-Unis sont au cœur de sa critique, et Washington fait aussi l'objet d'une autre polémique qui concerne cette fois le versement d'argent à l'Iran pour financer la guerre en Syrie. C'est la revue américaine Foreign Policy qui le dit. Elle a publié fin septembre un article à charge contre l'administration américaine et qui pose des questions sur les dessous de l'accord sur le nucléaire iranien signé, on s'en rappelle, en juillet 2015. On le sait, il y a eu dans le cadre de cet accord, des transferts de fonds des États-Unis et aussi d'autres pays vers l'Iran. Le journal parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Or, nous dit Foreign Policy, en janvier et février de cette année, les États-Unis ont fait acheminer en 3 fois 1,7 milliard de dollars en espèces à l'Iran, officiellement pour y régler un contentieux vieux de 30 ans. Le problème, souligne le journal, c'est que l'explication du gouvernement américain pour justifier ce versement en liquide ne tient pas la route. Et le journal en est convaincu, cet argent alimente la guerre que mène Téhéran en Syrie. Alors je cite Foreign Policy, le président Barack Obama semble avoir fait exactement ce que son secrétaire d'État et lui-même avaient promis de ne pas faire, financer directement les atrocités commises en Syrie. C'est dit et c'est signé Foreign Policy.
France Culture, Affaires étrangères, Xavier Martinet.
Merci beaucoup Éric Scholl pour cette chronique. Peut-être une réaction, François Hesbourg. C'est vrai que c'est une nouvelle surprenante, ces trois versements d'1,7 milliard de dollars.
Non.
Non.
Absolument pas. L'accord nucléaire avec l'Iran est un accord sur le nucléaire. Ce qui importait aux cinq pays permanents du Conseil de sécurité qui ont conclu cet accord, c'était que le programme nucléaire iranien s'arrête et qu'effectivement tout soit gelé pendant plus d'une décennie. Et ça ne veut pas dire que l'Iran s'est engagé à ne plus soutenir Bachar, par exemple. Ça a signifié par ailleurs que des sanctions allaient être levées. Les affaires avec l'Iran reprennent. Ça fait partie de l'accord nucléaire. Alors, évidemment, on peut toujours dire « Ah oui, on aurait pu faire un accord où les Iraniens auraient accepté de ne plus avoir de programme nucléaire, mais ils accepteraient en même temps que les sanctions financières continuent de s'appliquer dans toute leur dureté. » Ça ne s'appelle pas une négociation. Ça s'appelle du « wishful thinking ». Et on est dans un monde de rapports de force, on est dans un monde de conflits et parfois des négociations. Et il ne faut pas reprocher à l'accord nucléaire iranien d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un accord qui, moyennant des concessions importantes à l'Iran, a permis l'arrêt du programme. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est facile de dire à les Occidentaux, c'est un désintérêt de la Syrie parce qu'il n'y a pas de pétrole et ainsi de suite. Et bien sûr, on peut et on doit critiquer la non-intervention occidentale au moment de l'affaire des lignes rouges, en 2013. Ça, c'était l'occasion qui nous était servie sur un plateau pour effectivement changer le cours des choses en Syrie. On ne l'a pas fait. Mais une fois qu'on a dit ça, si on veut intervenir en Syrie, comme le font les Russes, il faut des buts de guerre. Pour l'instant, notre but de guerre s'appelle Daesh, s'appelle l'État islamique. C'est le seul but de guerre que nous partageons les uns et les autres en ce moment au Moyen-Orient. Et pour le reste, il n'y a pas d'accord. Ce serait quoi notre but de guerre en Syrie ? On a une intervention militaire. Ce serait quoi ? Moi, je ne sais pas.
Une bonne question. Les buts de guerre dépendent des intérêts sur place, effectivement.
Pas forcément sur place. De l'interaction aussi avec les grandes puissances, avec les ambitions que l'on peut se fixer en tant qu'État, etc. Les buts de guerre russes, par exemple, le premier, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était d'empêcher la chute de quelqu'un que la Russie soutient, pour les raisons que Nicolas Tanzer a excellemment expliquées, qui avaient tout à voir avec le fait que la Russie ne veut pas de révolution de couleur. Et notamment à cause de ses préoccupations intérieures. Ça n'avait rien à voir avec la base de Tartous, en l'occurrence. Je pense que c'était beaucoup plus important que la base de Tartous. Et l'autre objectif, c'était de faire sortir la Russie de son rôle de puissance qui était ratatinée à un niveau européen en une puissance plus que régionale. Et ça, c'est clair. Et les Russes agissent en conséquence. Moi, je ne sais pas quels sont les buts de guerre qui seraient partagés entre les différents pays qui interviendraient contre Bachar. Et ça a été notre problème depuis le départ. Enfin, un dernier mot, parler de la puissance ou de la faiblesse de la Russie. La Russie a le PIB de l'Espagne, c'est pas beaucoup. L'Union soviétique avait le PIB de la France. C'est un petit peu plus. Mais il faut pas oublier que les problèmes structurels de l'économie russe ont 4 siècles. La Russie est dépendante des exportations de matières premières depuis l'ouverture de la Russie aux échanges internationaux sous les Romanov. Autrement dit, la Russie doit par d'autres moyens que les moyens économiques et se faire, entre guillemets, sa place au soleil. Sous Poutine, c'est la capacité d'intervention rapide. C'est très différent de l'Union soviétique. Les Russes ont appris à être agiles et rapides. Et les Russes ont appris aussi, très différent aussi de l'Union soviétique, à être imprévisibles. L'imprévisibilité est une qualité stratégique, une vertu stratégique reconnue comme telle dans les textes russes. Autrement dit, oui, dans 4 siècles, la Russie sera peut-être aussi mal qu'elle l'était il y a 4 siècles. Mais je crains que cette observation tout à fait juste, par ailleurs, ne soit pas un bon guide pour notre action ou notre réaction à nous dans les 20 ou 30 ans qui viennent.
Et alors ça, c'est pour la grande stratégie russe et à très long terme. On va rejoindre Souhaïl Belhadj à Tunis. Bonjour Souhaïl Belhadj.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous. Vous êtes politologue au Graduate Institute de Genève. Vous avez beaucoup travaillé sur les transitions politiques. Vous êtes l'auteur d'un livre sur la Syrie de Bachar el-Assad. Je disais enjeu stratégique. Il faudrait peut-être commencer par rappeler l'enjeu stratégique essentiel que représente Alep au cours de ces 5 ans de guerre, en fait.
Oui, absolument. Alors, depuis quelque temps déjà, Alep est principal champ de bataille en Syrie, il faut le préciser, et c'est l'un des principaux enjeux de la guerre actuelle. Alors pourquoi ? Parce qu'Alep, c'est la deuxième ville du pays, c'est la véritable capitale économique du pays, elle était peuplée un peu avant le début de la guerre, d'environ 1,8 million d'habitants, donc très densément peuplée, elle se trouve à 90 km de la frontière turque. Donc c'est un véritable enjeu. Alors au début du mouvement de contestation en 2011, Alep était resté plutôt à l'écart de ce mouvement. Il y avait quelques manifestations d'étudiants, mais sans plus. Et finalement, elle a fini par faire partie du conflit à partir de 2012. Qu'elle soit divisée en quartiers. Qu'on va appeler loyalistes par commodité parce que ces quartiers-là sont contrôlés par l'armée syrienne, alors c'est principalement à l'ouest de la ville, et puis des quartiers tenus par l'opposition, donc c'est plutôt à l'est. Donc vous avez une vraie ligne de fracture qui coupe la ville en deux, mais hormis la ville, c'est toute la province qui est le théâtre de combats entre groupes armés, et là vous allez retrouver des djihadistes, des groupes rebelles non djihadistes, l'armée régulière, des milices pro-régime, mais aussi des combattants libanais du Hezbollah, des combattants turcs, etc.
Beaucoup de monde donc, mais si j'essaye de simplifier, en fait, je suggérais dans la vision du régime syrien et de la Russie, finalement, Alep est divisé à l'ouest en une partie qui est contrôlée par le régime et l'est qui est contrôlée, disent-ils, par le front Fatah al-Sham ex-al-Nosra, qui est principalement composé de djihadistes, même si ça reste à voir, mais en gros, ce qu'on comprend, c'est que ni Bachar al-Assad ni la Russie ne lâcheront Alep en aucun cas. C'est un peu ça qui se dessine.
Non, ça c'est une certitude. Ils considèrent la bataille d'Alep, mais pas simplement les Russes et le régime syrien. C'est aussi le cas pour les rebelles sur place. Ils considèrent la bataille d'Alep comme vraiment la mère des batailles dans le conflit et dans la dynamique du conflit, l'évolution du conflit actuel. Effectivement, vous avez le groupe dominant, quand je dis dominant, c'est-à-dire le groupe rebelle qui vraiment a le plus fait le plus de dégâts militairement parlant, qui est le plus fort militairement, c'est l'ex-groupe El-Nosra, qui s'appelle Fatah al-Sham, et qui est composé, on estime qu'il y a entre 800 et 900 combattants djihadistes, donc dans ces quartiers est de la ville. Et l'idée des Russes et l'Assad et de l'armée syrienne, c'est qu'en reprenant, en expulsant ces djihadistes de la ville, donc ce groupe dominant, ils parviendront à reprendre le contrôle de la ville, et à partir de là, de progresser progressivement vers la province de Idlib, qui se trouve immédiatement à l'ouest, qui est limitrophe du gouvernement d'Alep, et de faire en gros la jonction entre les régions côtières, qui sont contrôlées par le régime, et puis Alep. Et donc de recontrôler, je ne dis pas reconquérir, hein, parce que reconquérir, ça veut dire la légitimité, acquérir la légitimité, etc. Je parle là de recontrôle donc militaire de toute une zone qui viendra parachever leur idée de contrôle de la Syrie utile.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que disait Bachar el-Assad, je crois, dans un entretien à un journal russe comme Somolskaya Pravda, où il disait on va reprendre Alep et puis après on va marcher sur la province d'Idleb. Effectivement, il l'a dit hier, je crois.
Oui, c'est ça.
Oui. Peut-être on pourrait voir du coup ce qui pourrait se passer. Vous vous rappelez que il y avait eu un certain nombre de négociations qui avaient été engagées sur ces 5 dernières années avec un conseil national syrien, avec une autorité syrienne combattante. Finalement, ces négociations ont achoppé. Aujourd'hui, on ne les voit plus du tout. Disons, ces Syriens légitimes qui prenaient part aux négociations.
Oui, alors c'est tout le drame. Donc vous avez cette coalition nationale syrienne qui vient de se dont à la tête dont on a constaté un changement à la tête puisqu'il y a un nouveau président. Mais c'est tout à fait. Alors ça date de quelques mois, mais c'est passé tout à fait. Personne ne s'en souvient, personne ne le sait. Donc ça donne une idée. De cette perte de crédibilité, peut-être pas de crédibilité, mais en tout cas de visibilité au niveau médiatique et au niveau international, de cette coalition syrienne reconnue par la communauté internationale. Je pense que sur ce qui compte là, à l'heure actuelle, c'est la vérité du terrain. Et la vérité du terrain, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ce sont les forces jihadistes et islamistes qui sont dominantes, je veux dire militairement parlant, peut-être pas en nombre, mais militairement parlant, qui sont dominantes. Et ce sont elles, pour le moment, qui contrôlent des quartiers et des territoires.
Alors ça, c'est une chose.
L'essentiel des négociations se fera directement, je le suppose, avec ces chefs. D'ailleurs, les Russes avaient proposé aux gens de Fatah al-Sham, donc ex-Nosra, relié à Al-Qaïda, d'évacuer les quartiers est pour se replier à Idlib où l'essentiel de leurs forces se trouve. Donc de ce point de vue, je pense que la négociation se fera essentiellement avec ces groupes armés qui, on le constate maintenant au bout de 5 ans, il y a la coordination entre l'opposition de l'extérieur, par commodité, je vais l'appeler comme ça, donc reconnue par la communauté internationale, et cette opposition sur le terrain qui contrôle des territoires et des quartiers, cette coordination est, je pense, très très faible, inexistante. Les uns ne donnent pas leurs ordres aux autres. Et voilà. Et puis, bon, de manière générale, il faut se rappeler aussi que l'Arabie Saoudite soutient les groupes armés islamistes, alors je ne dis pas jihadistes encore, puisque ça c'est difficile à prouver, mais ils ont des soutiens de poids en termes d'acheminement d'armes, en termes d'appui financier aussi.
Oui, ça c'est une chose effectivement qu'il faut rappeler. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être intervenu aujourd'hui au téléphone, Souhaïd Belhadj. Je le rappelle, politologue au Graduate Institute de Genève. Merci. Merci encore. Peut-être une dernière réaction, Nicolas Tönsör, je vais vous demander à vous, mais puisqu'il y a cette réunion qui a lieu en ce moment à Lausanne aujourd'hui, je l'ai rappelé avec Qatar, Iran, Arabie Saoudite, justement, qu'est-ce qu'on peut en attendre, puisque c'est des partenaires qu'on ne voit pas très souvent négocier cela?
Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit vraiment pas ce qu'on peut en attendre, parce que les objectifs des uns et des autres sont totalement opposés. La Russie veut totalement contrôler, je dirais, le pays, soutenir, on l'a rappelé, Bachar el-Assad, montrer qu'elle est une grande puissance fiable, entre guillemets, pour ses alliés et pour ses régimes dictatoriaux. Et on sait très bien aussi que, par ailleurs, elle ne combat pas, je voudrais comme le rappeler, elle ne combat pas du tout l'État islamique, Daesh, et donc, de ce point de vue-là, ni le régime Bachar el-Assad, qui a même libéré un certain nombre de prisonniers islamistes, il faut aussi le rappeler. Donc on est aussi dans un jeu de dupes. Donc ces négociations dites de la dernière chance, mais ça fait combien d'années qu'on a des négociations de la dernière chance? Évidemment, je pense qu'elles n'aboutiront pas parce que c'est totalement impossible pour la Russie de céder sur quoi que ce soit.
Oui. Et avec d'autres enjeux ou facteurs de blocage qu'on n'a pas le temps d'évoquer aujourd'hui, mais qu'on évoquera peut-être plus tard. Je pensais à l'offensive sur Mossoul, l'intervention turque également en Syrie. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présents tous les deux aujourd'hui. François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique, président de l'Institute for Strategic Studies de Londres et Centre politique de sécurité de Genève. Et vous aussi, Nicolas Tönsör, merci. Professeur associé à l'International Public Affairs de Sciences Po, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, le CERAP, directeur de la revue Le Banquet. On était également au téléphone avec Souhaïd Belhadj, qui est politologue au Graduate Institute de Genève, qui a publié, je le rappelle, La Syrie de Bachar el-Assad, anatomie d'un régime autoritaire chez Belin. Et puis on a appelé au début d'émission, Konstantin von Egert, qui est politologue, en fait observateur politique à la télévision Dosht, il est à Moscou. Et puis on remercie aussi Eric Scholl de Courrier International, notre partenaire. C'était Affaires étrangères. À la réalisation, comme toujours, Luc-Jean Reynaud, avec à la technique Pierre Faucillon aujourd'hui. Et merci beaucoup pour la préparation à Meryl Meneghetti. Vous retrouverez évidemment toutes les informations autour de l'émission sur le site de France Culture, où vous pouvez podcaster Affaires étrangères ou l'écouter en ligne. Et puis dans quelques instants, vous retrouvez évidemment Dominique Rousset pour l'économie en question.